Propose que nous ouvrions ensemble, chers amis, le début du livre de Job. À la page 374. Le livre de Job. Il y avait dans le pays d'Utz un homme dont le nom était Job, et cet homme était parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Et il lui naquit 7 fils et 3 filles, et il possédait 7 000 brebis et 3 000 chameaux et 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait un très grand nombre de serviteurs, et cet homme était plus grand que tous les fils de l'Orient. Et ses fils allaient et faisaient un festin, chacun dans sa maison en son jour. Et ils envoyaient appeler leurs 3 sœurs pour manger et pour boire avec eux. Et il arrivait que quand les jours du festin étaient terminés, Job envoyait vers eux et les sanctifiait. Il se levait de bonne heure le matin et offrait des holocaustes selon leur nombre à tous. Car Job disait peut-être, mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur? Job faisait toujours ainsi. Et un jour il arriva que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan aussi vint au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « De courir çà et là sur la terre et de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu considéré, mon serviteur Job, qu'il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal ?» Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas, toi, entouré de toutes parts d'une haie de protection, lui et sa maison ?» et tout ce qui lui appartient. Tu as béni le travail de ses mains et tu as fait abonder son avoir sur la terre. Mais étends ta main et touche à tout ce qu'il a et tu verras s'il ne te maudit pas en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qu'il a est en ta main. Seulement, tu n'étendras pas ta main sur lui. Et Satan sortit de la présence de l'Éternel. Et un jour, il arriva que les fils de que ses fils et ses filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère premier-né. Et un messager vint à Job et dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient auprès d'eux, et ceux de Sheba sont tombés sur eux, et les ont pris, et ils ont frappé les jeunes hommes par le tranchant de l'épée, et j'ai échappé moi seul pour te l'annoncer. Celui-ci parlait encore qu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, et a brûlé les brebis et les jeunes hommes, et les a consumés. Et j'ai échappé, moi seul, pour te l'annoncer. Celui-ci parlait encore, qu'un autre vint et dit, les Chaldéens ont formé 3 bandes, et se sont jetés sur les chameaux, et les ont pris, et ils ont frappé les jeunes hommes par le tranchant de l'épée, et j'ai échappé, moi seul, pour te l'annoncer. Celui-ci parlait encore, qu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère premier-né, et voici un grand vent est venu de là le désert, et a donné contre les 4 coins de la maison, et elle est tombée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et j'ai échappé, moi seul, pour te l'annoncer. Et Job se leva et déchira sa robe, et rasa sa tête, et se jeta à terre, et se prosterna. Et il dit, « Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné et l'Éternel a pris, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien à Dieu qui fût inconvenable. Or, un jour, il arriva que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan aussi vint au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « De courir çà et là sur la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu considéré, mon serviteur Job, qu'il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal ? Et encore, il reste ferme dans sa perfection alors que tu m'as incité contre lui pour l'engloutir sans cause. » Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « Peau pour peau, et tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main et touche à ses os et à sa chair. Tu verras s'il ne te maudit pas en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Le voilà entre tes mains. Seulement, épargne sa vie. » Et Satan sortit de la présence de l'Éternel, et il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de la tête. Et il prit un tesson pour s'en gratter, et il était assis dans la cendre. Et sa femme lui dit, « Restes-tu encore ferme dans ta perfection ? Maudit Dieu et meurs. » Et il lui dit, « Tu parles comme parlerait l'une des insensées. Nous avons reçu le bien aussi de la part de Dieu, et nous ne recevrions pas le mal. » En tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres. Et trois amis de Job apprirent tout ce mal qui lui était arrivé, et vinrent chacun de son lieu, Éliphaz le Thémanite, et Bildad le Shuchite, et Tsophar le Naamathite. Et ils s'entendirent ensemble pour venir le plaindre et le consoler. Et ils levèrent les yeux de loin, et ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent leur voix et pleurèrent. Et ils déchirèrent chacun sa robe et répandirent de la poussière sur leur tête en la jetant vers les cieux. Et ils s'assirent avec lui à terre 7 jours et 7 nuits, et nul ne lui dit une parole, car il voyait que sa douleur était très grande. Après cela, Job ouvrit sa bouche et maudit son jour. Il nous paraît fort édifiant, utile pour chacun de nous arrêter quelque peu sur l'enseignement fondamental que comporte ce livre particulier qu'est celui de Job, peut-être peu médité, mais qui place devant nous des enseignements toujours actuels, de la plus haute valeur, traçant des caractères de l'école à laquelle le croyant est soumis, ces voies divines qui se déploient à l'endroit du croyant dans le but de sa bénédiction, car Dieu veut faire toujours du bien à la fin, au travers même d'épreuves profondes, au travers de douleurs et de larmes. Et nous savons bien que ce livre place devant nous les voies divines dans une sagesse divine ayant pour but le bien à la fin, mais comportant le dépouillement de la chair, l'affranchissement de la chair. C'est l'école de Dieu. Le livre de Job est un livre particulier avec d'autres tels que celui des psaumes, des proverbes, de l'Ecclésiaste et du Cantique des Cantiques. Ces 5 livres ont communément été appelés des hagiographes, livres poétiques, d'aspect poétique, mais aussi prophétiques, dans lesquels les sentiments, soit dus ou des écrivains, sont traduits, mais livres dans lesquels nous ne trouvons pas la rédemption comme étant accomplie. Mais nous savons bien qu'elle est envisagée d'une manière particulière dans les livres des psaumes, puisque de nombreux psaumes, dits messianiques principalement, nous entretiennent prophétiquement des sentiments que le Seigneur a éprouvés face à ses heures de souffrance. Le thème, nous le rappelons, de ce livre, c'est donc l'affranchissement de soi-même. Une école combien difficile pour la chair, à laquelle le Seigneur veut nous soumettre pour sa gloire, pour notre bénédiction. Quant à la structure de ce livre, nous rappelons simplement ou signalons que le prologue fait l'objet des deux premiers chapitres, alors que dans les chapitres 4 à 31, nous aurons une alternance de discours ou d'exposés émanant soit de Job lui-même, soit de ses consolateurs, ses trois amis qui sont venus étant sensibles à sa souffrance. Alors que dans les chapitres 32 à 37, nous avons le quatrième ami présent, Élieu, qui parlera lui alors avec une grande sagesse, alors que les trois premiers ont démontré qu'ils n'entraient pas ni dans les pensées de Dieu, ne percevaient pas le but que Dieu poursuivait par ce par quoi il faisait passer cet homme remarquable qu'était Job. En revanche donc, Élieu parlera avec sagesse pendant ces six chapitres, 32 à 37, et ensuite, et en dernier lieu, c'est Dieu lui-même qui s'adressera à Job dans les chapitres 38 à 41 pour l'enseigner, et c'est Dieu lui seul qui pourra amener Job au but que la grâce divine se proposait à son endroit. C'est alors en quelques mots seulement que ce but sera démontré comme étant atteint lorsque Job sera amené à avoir horreur de lui-même. D'où la restauration, la bénédiction qui ne saurait se faire attendre et dont la description nous est donnée dans les derniers versets du 42e chapitre. Il est très frappant de voir qu'un homme qui a vécu au temps probablement des patriarches, qui n'avait aucune portion écrite des Écritures, qui ne connaissait pas la loi qui n'était pas encore donnée, qui n'appartenait pas encore au peuple terrestre de Dieu qui n'était pas suscité, avait néanmoins une crainte remarquable de Dieu et démontrait dans sa marche une intégrité que le ciel a su noter. On pourrait même dire que Job était un homme dont les caractères nous sont donnés, parfait pratiquement, sans défaillance quant à sa marche pratique, d'une intégrité sans reproche. Il était droit, il craignait Dieu, et il marchait dans la séparation du mal. Et nous avons la preuve, à double reprise, dans ce début du livre, que cet homme fait l'objet de l'admiration du ciel. Et nous avons l'appréciation de Dieu lui-même à son égard. Mais Job le savait. Et la conscience qu'il avait de cette irrépréhensibilité d'ordre pratique nourrissait dans son cœur une propre justice de laquelle il a eu une peine particulière à être délivré. Et c'était le but des voies de Dieu à son égard, le délivrer des prétentions de la propre justice. Il y a deux choses, bien sûr, que Job ignorait. Il ignorait l'état de son cœur. Il ignorait aussi le but de Dieu et les pensées de Dieu. Et ne pouvons-nous pas dire que ce sont les deux derniers domaines dans lesquels nous entrons avec le plus de difficultés, et ce sont les deux choses que nous connaissons le moins, notre propre cœur et le cœur de Dieu. Job était un homme heureux sur la terre. Il était comblé de bénédictions, comblé de richesses, comblé d'honneur. Il ne lui manquait rien quant à la vie d'ici-bas. Il en était conscient, il en était satisfait, il en jouissait, et cela ne l'a pas exposé à sortir de la crainte de l'Éternel, ni à commettre le mal, bien au contraire, puisqu'il nous a dit qu'il se retirait du mal, qu'il craignait Dieu, mais il était satisfait de lui-même. Et il faut qu'il en soit dépouillé. Nous savons bien que c'est le premier travail de la grâce. Lorsque un cœur est amené à la rencontre du Seigneur, il doit apprendre ce qu'il est. Non seulement ce qu'il a fait, il n'est pas parlé de péché commis par Job. Il n'est pas parlé d'écart dans sa marche, bien au contraire. Mais il faut que Job réalise ce qu'il est. Il faudra qu'il arrive à cette constatation et à cette déclaration qu'il ne fera qu'après 41 chapitres, au cours desquels lui-même parle seul pendant une vingtaine de chapitres, pour se justifier. Il faudra qu'il arrive à être dépouillé de lui-même et dire « J'ai horreur de moi ». Non pas « J'ai horreur de ce que j'ai commis », mais « J'ai horreur de moi-même ». Lorsque Pierre a rencontré le Seigneur, qu'a-t-il dit en voyant le Seigneur ? « Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Ce n'est pas seulement « je suis quelqu'un qui a commis des péchés ». Et nous confondons peut-être un peu les deux choses. Il s'agit de porter, lorsqu'une âme est mise en contact avec la grâce de Dieu, il s'agit de porter un jugement sur soi-même qui correspond à celui que Dieu porte sur l'homme pécheur et sur la nature pécheresse, en dépit d'une marche intègre. Job était un homme particulièrement intègre. Mais ce dépouillement de la chair, cet affranchissement de soi-même, c'est sans doute la phase la plus difficile et la plus pénible pour l'homme, être libéré de soi-même. L'apôtre Paul, arrivé à la fin même d'un ministère combien remarquable, nous disons la fin, puisqu'elle se trouve à la fin des Épîtres aux Corinthiens, que dit-il ? Je ne suis rien. C'est l'affranchissement de soi-même. Je ne suis rien. Mais par ailleurs, il peut dire ou parler de l'extraordinaire des révélations que la grâce de Dieu lui a accordées. Ce sont deux choses tout à fait distinctes. Ce que la grâce de Dieu à placer comme trésor dans le vase de terre, c'est une chose. Mais le vase reste un vase de terre. Je ne suis rien. À l'ouverture donc de ce chapitre, nous avons dans les premiers versets, dans les cinq premiers versets, des choses de la plus haute valeur. Premièrement, il nous est dit ce qu'était Job. Qui était Job ? Sur le plan de sa marche humaine, devant Dieu, de son intégrité, il était irrépréhensible. Il nous a dit également l'abondance, quelles étaient les richesses, tout ce qu'il possédait, une abondante richesse, c'était l'homme le plus grand que tous les fils de l'Orient. C'est donc un homme du pays d'Utz qui vient du pays d'Édom. Et il nous a dit également ce que Job faisait. Il avait 10 enfants qui vivaient sans doute dans l'opulence, ce dont témoignent ces festins qu'il faisait à l'occasion d'anniversaire, et nous voyons par ailleurs cette crainte de Dieu, ce scrupule de cet homme intègre, droit devant Dieu, et qui craignait, redoutait que ses enfants n'aient péché, car l'abondance et les facilités exposent l'homme. Nous sommes beaucoup plus exposés par les facilités, par l'abondance de biens, que lorsque nous sommes dans les privations. On se tient normalement et nécessairement beaucoup plus près du Seigneur quand on est dans la disette et dans l'épreuve que lorsqu'on est assis à un festin et que l'on est comblé de biens. Job en était conscient. Et c'est la raison pour laquelle il nous a dit que par crainte qu'ils aient prononcé même, non pas accompli des actes, mais prononcé des paroles inconvenantes en maudissant Dieu dans leur cœur, même pas l'exprimer peut-être, mais l'y avoir pensé, il offre pour eux des holocaustes. On est peut-être étonné de constater qu'ils offraient des holocaustes, on pourrait dire qu'ils devaient offrir des sacrifices pour le péché. Mais ici, au début du livre, comme tout à la fin nous le reverrons, on offre des holocaustes parce que le sacrifice pour le péché était inconnu à l'époque. Le sacrifice pour le péché n'intervient qu'au chapitre 29 de l'Exode. Mais Abel a offert un holocauste et Jusqu'à ce que le peuple soit tiré hors d'Égypte, on ne connaissait pas les sacrifices pour le péché, de telle manière que ces sacrifices, sous la forme de l'Holocauste, revêtaient en quelque sorte le caractère de sacrifice pour le péché. À partir du verset 5e, et nous dirons encore qu'aux dernières paroles du verset 5e, il nous a dit « Job faisait toujours ainsi ». Ce n'était pas une circonstance particulière, occasionnelle, que de temps à autre, il accomplissait cet acte en offrant des sacrifices, mais il était maintenu dans une crainte constante. Persévérance dans la vigilance. Et il nous est dit de Job, il faisait toujours ainsi, pas seulement occasionnellement, mais toujours ainsi. Combien il est beau de voir ce père soucieux de l'état moral et spirituel de ses 10 enfants, des uns comme des autres. Il était préoccupé, craignait, que ses enfants ne soient sortis du chemin de la convenance quant à Dieu. De telle manière que chaque fois, toujours, il opérait de cette manière, il offrait des sacrifices à l'intention pour Dieu, mais à l'intention ou en faveur de ses fils. Un père soucieux de sa nombreuse famille, des uns comme des autres. Ramenons toujours ces dispositions et tout le cadre de ce livre à l'époque dans laquelle Job a vécu. On peut donc bien le penser au temps des patriarches, même s'il a probablement été écrit au jour de Moïse. À partir de cela, nous avons une scène qui nous paraît particulière, étrange, à savoir que des fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan aussi vint au milieu d'eux. Des fils de Dieu, nous pouvons bien penser que ce sont des anges qui ont cet accès et qui viennent se présenter devant l'Éternel. Et Satan s'introduit. N'oublions pas que Satan était, avant sa chute, compté au nombre des anges et occupait même dans la hiérarchie angélique une place particulière. Et que depuis la chute, que fait Satan? Il est l'accusateur des croyants, l'accusateur des frères. Jusqu'à quand remplira-t-il cette sinistre mission? Jusqu'au jour où il sera précipité du ciel, c'est-à-dire en Apocalypse 12. Lui et ses anges seront précipités du ciel, et dès lors, il ne sera plus, il ne pourra plus être, dans une telle sphère, l'accusateur des fidèles. Mais il est, depuis sa chute à lui, l'accusateur des frères. Il ne cherche qu'à trouver le défaut dans la marche des enfants de Dieu et à les mettre en évidence devant Dieu. Nous connaissons tous le chapitre 3 du livre de Zacharie, où nous voyons que Satan est là pour s'opposer lorsque Jéchua, sacrificateur, est présent, vêtu de vêtements sales. Nous connaissons cette scène de Zacharie 3, chacun peut la relire en détail, et Satan est là pour s'opposer à lui, pour mettre en évidence devant Dieu, comme pour lui dire, « Mais vois-tu, Jéchua, il est vêtu de vêtements sales, il te déshonore. » Mais ce que Satan ne connaît pas, c'est la pensée de Dieu, le but qu'il poursuit et les ressources de la grâce. Cela, il l'ignore. Et lorsque les vêtements sales de Jéchua sont enlevés et qu'on lui le revêt de vêtements de fête et qu'on met une tiare sur sa tête, nous ne voyons pas que ce soit Jéchua qui se soit revêtu, mais il est revêtu. C'est toujours le vêtement de la grâce qui est donné. Je te revêt de vêtements de grâce, de vêtements de fête. Satan ne peut rien dire. Il a la bouche fermée devant les ressources de la grâce. Mais pour accuser, il est là. Il s'introduit parmi ses fils de Dieu et il vient devant l'Éternel. Qui lui pose donc cette question, par deux fois, nous l'avons vu, mais au verset 7, où l'Éternel demande à Satan, « D'où viens-tu? D'où viens-tu? » Et lui de répondre, « De courir ça et là sur la terre, de m'y promener. » Courir ça et là. Satan est à l'affût. Il n'a pas une minute à perdre. pour nuire à la créature. Pour que cette créature, tombant dans le péché et marchant au déshonneur de Dieu, soit à son service. Et qu'est-ce qu'il emploie pour cela? C'est bien sûr la chair. Il court. Cette expression « courir » est intéressante parce qu'elle témoigne d'une réalité, à savoir que Satan n'est pas omniprésent. Satan n'est pas omniprésent, il doit se déplacer. Lorsqu'il est parlé de Dieu lui-même ou du Seigneur, nous connaissons ces paroles du livre de Jérémie ou du psaume 139 ou d'autres versets encore, nous savons bien qu'il est omniprésent, omniscient, omnipotent, omniprésent. Toujours là, où que l'on soit, il est là. Ce n'est pas le cas de Satan. Il faut qu'il court, il déploie une énergie sans frein pour courir ça et là. Il est à l'affût, il se promène, il cherche où il pourra nuire. Et que lui dit l'Éternel? As-tu vu? As-tu considéré mon serviteur Job? Il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu, se retirant du mal. Quel témoignage rendu par Dieu lui-même à l'égard de cet homme Job, quant à sa droiture, sa marche irrépréhensible, quant à l'intégrité de Job, nous avons le témoignage rendu par Dieu lui-même. Mais il s'agit de la marche de Job, combien elle est importante. Mais il ne s'agit pas de la nature de l'homme qui a la chair en lui. Et nous avons comme croyants la chair en nous-mêmes. Nous ne sommes plus dans la chair, mais la chair est en nous. Et c'est un conflit permanent. L'Épître aux Romains au chapitre 8 est là pour l'attester. L'esprit et la chair sont en conflit et réclament une vigilance permanente. Nous ne pourrons, comme croyants, jamais crier victoire sur la chair. Et le moment de communion que nous pouvons vivre en cet instant, dans la proximité du Seigneur, dans la jouissance du Seigneur, ne nous assure rien pour la minute qui suit. Satan court, il est là, et la chair est en nous. D'où cette vigilance nécessaire, cet exercice permanent pour tenir la chair dans la mort. Il ne nous a pas demandé de faire mourir la chair, nous ne pourrions pas. Mais elle était crucifiée à la croix. Notre responsabilité, c'est de la tenir dans la mort où Christ l'a placée, y mettant un point final, la crucifiant à la croix. Et mortifier nos membres qui sont dans le corps et nous tenir pour morts. Mortifier nos membres, qu'est-ce? Les laisser se nécroser. Les éléments de notre être qui seraient au service de la chair et nous entraveraient dans la marche ou nous amèneraient à déshonorer le Seigneur, nous le réalisons si facilement, si fréquemment, nous le disons pour nous-mêmes, nous avons à les laisser s'atrophier. C'est cela. Mortifier les membres, les laisser se nécroser pour qu'ils ne puissent plus se manifester dans leur vigueur. Mais la conversion, la nouvelle naissance, n'a rien amélioré quant à la chair. La chair est inguérissable, c'est pour cela que la seule thérapie qui lui convient, c'est la mort. Et la chair qui se manifeste chez le croyant est exactement la même que la chair qui se manifeste chez un incrédule. La chair qui se manifeste à un âge très avancé est exactement la même que la chair qui se manifeste chez un jeune. L'homme extérieur dépérit, mais pas la chair. Elle a une vitalité extraordinaire. D'où la mort nécessaire. Christ l'a crucifié à la croix, et nous avons à réaliser pratiquement cette réalité de la victoire de Christ sur la chair. Je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi. C'est ce que l'apôtre a été amené par grâce à réaliser. Pour moi, vivre, c'est Christ. C'est l'homme mis de côté. Et c'est ce que Job ne savait pas. C'est ce que Job n'avait pas expérimenté. Et c'est à cela, à ce point-là, que la grâce de Dieu, par amour pour Job, veut produire dans son cœur. Satan de répondre, mais il n'y a rien de surprenant, s'il t'honore ainsi. Ne l'as-tu pas entouré de toutes parts d'une aide de protection? Lui, sa maison, tout ce qui lui appartient. Est-ce qu'il n'est pas extraordinaire que nous apprenions de la bouche même de Satan la mesure dans laquelle nous sommes protégés? Nous pourrions presque dire qu'il le sait mieux que nous ne le réalisons. ne l'as-tu pas toi-même? Combien cela est beau. Et c'est Satan qui le sait, c'est lui qui le dit. Mais s'il est béni, je ne peux rien faire, c'est toi qui l'as béni. Et contre la bénédiction, je ne peux rien faire. Ne l'as-tu pas toi-même entouré de toutes parts d'une haie de protection, ainsi que sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains, tu as fait abonder son avoir, mais touche à ce qu'il a, tu verras s'il ne te maudit pas en face. Ce que Dieu a béni, personne ne peut le révoquer. Nous connaissons tous ces chapitres marquables 22-23 du livre des Nombres, où l'ennemi d'Israël prend à sa solde Balak et ensuite Balaam pour produire par Balaam, si faire se pouvait, cette malédiction de la part de Dieu à cause de l'infidélité du peuple. Satan voyait très bien que le peuple déshonorait souvent l'Éternel. Alors il veut faire amener la malédiction sur Israël. Et montant sur la montagne, dans la personne de Balak et en compagnie de Balaam, il veut chercher à amener Dieu à prononcer une malédiction sur son peuple. Mais que va-t-il répondre? Il est béni et je ne le révoquerai pas. Que tes tentes sont belles, ô Israël. Ce que Dieu a béni, qui pourrait l'en priver? Nous retrouvons le même thème ici. Mais alors, Satan de dire, s'il te craint, s'il t'honore, s'il marche dans la séparation du mal, c'est parce qu'il est béni. Mais enlève-lui cette bénédiction et tu verras si, d'un jour à l'autre, il ne va pas te maudire en face. Il incite, en quelque sorte, Dieu à intervenir dans une discipline à l'égard de Job. Mais ce que nous ne savons pas, ce que Satan ne sait pas, c'est que Dieu est au-dessus de la scène et qu'il a en vue la confusion de l'ennemi et en vue la bénédiction de Job. Touche à tout ce qu'il a. Et l'Éternel de répondre au verset 12, « Voici tout ce qu'il a est en tes mains, seulement n'étant pas ta main sur lui. » Alors Satan, autorisé, sort sans perdre une minute. Et Satan sortit de la présence de l'Éternel. Il sort. Remarquons que l'Éternel doit autoriser Satan. Et d'autre part, l'Éternel prescrit à Satan des limites. Des limites que Satan ne peut pas dépasser. Il est frappant de voir dans la parole, dans de nombreux passages, ce que d'une part, le Dieu lui-même, le Seigneur lui-même, permet à l'égard des croyants, et ce qu'il ne permet pas. Il y a des choses que le Seigneur permet, des épreuves, la discipline, voire même le gouvernement. Il y a des choses qu'il permet. Combien de circonstances douloureuses ont été permises par l'Éternel, voire même voulues? Car Dieu voulait la bénédiction de Job, et pour qu'il puisse la recueillir, il fallait qu'il passe par cette discipline. Il a voulu ce chemin-là pour Job. Et nous pouvons dire qu'il a permis des circonstances extrêmement douloureuses pour le peuple terrestre de Dieu, des mises à l'épreuve. Il a permis aussi, dans le Nouveau Testament, combien de chemins difficiles. Il a permis la mort de Lazare, mais pour sa propre gloire et la bénédiction des foules qui verraient la puissance divine en résurrection. Et la consolation de ses sœurs est la manifestation de sa divine et puissante sympathie. On n'aurait pas vu le Seigneur pleurer sans cela. Il a permis la mort de Lazare, ce que peut-être personne n'a compris, puisqu'on a dit, si tu avais été ici, il ne serait pas mort. Il a aussi permis que les menaces de Jézabel en son temps soient faites à Élie, pour qu'Élie soit manifesté, manquant de foi et de dépendance, s'enfuyant dans le désert pour demander la fin de sa vie. La fin de sa vie. Nous reviendrons peut-être sur ce point en rapport avec Job. Il a permis aussi, et il le fallait, que l'apôtre Paul soit frappé, souffleté par un ange de Satan, et qu'il soit frappé par une écharde dans la chair. Mais l'apôtre a compris que c'était pour sa bénédiction et que cette écharpe, précisément, tenait la chair dans la mort, et que la puissance s'accomplissait dans l'infirmité. Le Seigneur permet des voies difficiles, formatives, mais toujours en bénédiction, pour la bénédiction. Et il n'abandonnera jamais. C'est ce qu'il ne permet pas. Il ne permettra jamais que le juste soit abandonné. Il ne permettra pas que ses pas soient ébranlés, que ses pieds chancellent. Psaume 55, psaume 121, et tant d'autres passages encore. Et il ne permettra pas, nous dit l'Épître aux Corinthiens, que l'épreuve ou la tentation dépasse la mesure humaine qui peut être supportée. C'est un Dieu de mesure. Il se souvient que nous sommes des vases de terre, que nous sommes des êtres limités. Et l'infini de sa grâce ne dépasse pas les limites humaines. Il ne permettra pas que l'épreuve ou la discipline ou la tentation dépasse ce qui peut être supporté. Et avec elle, il produira l'issue. Il n'avertit pas nécessairement en disant « telle sera l'issue et le moment quand elle interviendra », mais il l'a préparée. Et cela est digne de donner confiance. Il a préparé l'issue afin qu'elle puisse être supportée. Il y a ce qui est permis, il y a ce qui n'est pas permis. Nous avons un Dieu de mesure, et ce qu'il commande, puisqu'il nous disait dire qu'aucune chose arrive qu'il ne l'ait commandé, ou ce qu'il permet, c'est toujours dans ses voies formatives qu'il déploie à l'égard des siens pour leur bénédiction, pour leur bien. Satan dort, Satan donc sort. On peut dire, Job est livré à Satan. Nous connaissons bien cette expression dans les Écritures, lorsque quelqu'un est livré à Satan. Mais lorsqu'un croyant est livré à Satan, ce n'est jamais pour sa perdition éternelle, puisqu'on ne peut pas perdre son salut. Mais Dieu permet. Le Seigneur remet en quelque sorte une âme entre les mains de Satan, tout en conservant la vigilance de son amour sur lui, pour qu'il apprenne. Nous avons des cas extrêmes. Par exemple, l'apôtre Paul, dans le premier épître aux Corinthiens, à l'égard de l'inceste, peut dire qu'en lui-même, il a jugé de livrer un tel homme en Satan pour la destruction de la chair, c'est-à-dire la mort du corps. Du corps, pas la mort éternelle. C'est-à-dire qu'un tel homme, à son sens, à son point de vue, l'appréciation de l'apôtre, a commis quelque chose de si grave, démontrant qu'il n'est plus en mesure de maîtriser, de tenir la chair dans la mort, de la faire taire, que la seule solution, c'est qu'il en soit définitivement délivré par la mort du corps. Mais cela ne comporte jamais la question de la vie éternelle. Lorsque l'apôtre parle dans la première épître à Timothée d'Hyménée et Alexandre, il nous a dit qu'il les a livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Voilà une mesure moindre. Dans le premier cas de l'apôtre Paul à l'égard de l'inceste, il nous a dit ce qu'il avait jugé en lui-même. Mais il ne dit pas à l'Assemblée de le faire, parce qu'une Assemblée ne peut jamais livrer à Satan. Il n'y a que le Seigneur, c'est un pouvoir divin, ou par le canal d'un apôtre. Mais aucune Assemblée, aucun croyant ne peut livrer qui que ce soit à Satan. Mais dans le cas d'Hyménée et Alexandre, c'était pour leur formation. C'est-à-dire apprendre dans des circonstances douloureuses, où ils sentent les assauts de l'ennemi, ce qu'ils n'ont pas su apprendre dans des conditions favorables, avec le Seigneur. Mais apprendre dans de telles conditions, si solennelles que ce soit, c'est pour la bénédiction de celui qui retirera l'instruction. Voilà donc Job qui est livré à Satan. Et nous avons lu dans la deuxième partie de ce premier chapitre 4 dépouillements successifs. Dans ce premier chapitre, en quelque sorte, nous avons 3 personnes qui interviennent. Nous avons Dieu lui-même, l'Éternel, nous avons Satan et Job. Il est très frappant et peut-être unique dans la parole, sauf erreur, de voir un livre, et un livre aussi long, puisqu'il comporte 42 chapitres, qui ne nous occupe que d'un seul homme. 42 chapitres pour nous faire connaître les voies formatives de la grâce de Dieu dans un chemin de souffrance à l'égard d'un seul croyant. Et cela met l'accent sur la valeur et l'importance qu'a pour Christ la bénédiction d'une âme. Mais cela met aussi en évidence combien nous avons de la peine à les recueillir, puisqu'il a fallu un échange de propos, une insistance dans la propre justice de Job, aussi longue, aussi persévérante, aussi tenace, pour qu'il arrive enfin à réaliser qu'il n'était rien et qu'il avait horreur de lui-même. Et ne pensons pas que nous soyons supérieurs à Job. Quatre circonstances douloureuses le frappent. Ceux de Sheba, ensuite c'est le feu de Dieu, troisièmement ce sont les Chaldéens, et quatrièmement c'est le grand vent qui s'abat sur la maison, laquelle tombe sur ses enfants qui sont morts. Remarquons que dans ces quatre premières épreuves, nous avons deux domaines qui sont touchés, ce sont les biens matériels et les affections naturelles. Dans la deuxième phase du second chapitre, nous aurons un troisième domaine touché, c'est Job dans son corps. Ce qui est aussi à noter, c'est que chaque fois que l'un de ces messagers vient apporter cette nouvelle si affligeante pour Job, le malheur qui est survenu n'a laissé qu'un seul survivant. Il ne peut pas y avoir de malheur plus généralisé, mais il faut un survivant pour qu'il puisse en témoigner. Je suis resté moi seul pour te l'annoncer. Les quatre fois la même chose. Dépouillement successif. Épreuve successive. Et l'ennemi le sait que les épreuves s'ajoutant aux épreuves sont de nature à produire l'accablement, voire même la révolte dans l'homme. Elles sont de nature à produire aussi le découragement. Satan connaît très bien l'homme. Voilà 6000 ans qu'il manœuvre pour porter atteinte au cœur de l'homme. Il sait comment œuvrer. Et par ces quatre circonstances tragiques qui atteignent la famille de Job, les biens de Job et la famille de Job, nous voyons chaque fois qu'un seul survivant vient pour le rapporter à Job. Et il n'a pas terminé d'annoncer le malheur qui vient de survenir, que le suivant se présente. Pensons un peu à ce qu'a pu ressentir un homme comblé de biens, ayant 10 enfants qui marchent selon sa pensée, et qui se trouve en si peu de temps dépouillé de tout. Nous avons 4 épreuves dans le premier chapitre, nous verrons 3 autres épreuves dans le deuxième chapitre. Il est frappant aussi de voir que Satan, quand il se présente d'une manière générale, ne fait pas toujours apparaître le but qu'il poursuit, ni ne démontre ce qu'il est. Il se sert d'artifices, il se sert de choses attrayantes, nous le voyons déjà dans le jardin d'Éden, il se déguise en ange de lumière, il est aussi ce lion rugissant, mais il se déguise. Et on ne mesure pas toujours, ni les incrédules, ni les croyants, le but qu'il poursuit et ce qui arrivera par la suite. On sous-estime sa puissance, et parfois par des choses attrayantes, généralement pour la chair, on se laisse prendre au piège. C'est pour cela que nous lisons cette expression en Apocalypse 9, dans ces agents, que comme pour le scorpion, le venin est dans la queue. Le scorpion a le venin dans la queue. Lorsqu'il se présente, il ne semble pas qu'il soit si mauvais. Mais la bête, elle a le venin dans la queue. C'est l'aspect typique de ça. Mais arrivons à ces passages extraordinaires des derniers versets du chapitre 1er. Il nous est dit de Job qu'il se lève. Après avoir entendu ces 4 témoignages des quatre épreuves tragiques qui viennent de le frapper, Job se lève, déchire sa robe, rase sa tête, se jette à terre, se prosterne. Quelle dignité! Sur le plan extérieur, on comprend qu'il puisse être dit de lui, il n'a pas son semblable sur la terre. Voilà un homme qui, étant entièrement dépouillé sur le plan matériel et sur le plan affectif, il ne lui reste que son épouse, et nous verrons à quel point il lui est utile. Il nous est dit donc qu'il déchire sa robe, signe de deuil. Il rase sa tête. Il se jette à terre et il se prosterne. Il se prosterne devant Dieu, il reconnaît les droits divins en dépit du fait qu'il voit que Dieu l'a frappé. Il se prosterne. Il n'est pas dépouillé de la révérence qu'il adresse à son Dieu. Et il peut prononcer des paroles remarquables en ajoutant « Nu, je suis sorti du sein de ma mère et nu, j'y retournerai. » L'Éternel a donné, l'Éternel a pris, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien à Dieu qui fût inconvenable. Il réalise que l'homme qui peut avoir de grands biens, qui peut en jouir, ne les a reçus que de Dieu qui les lui prête et qu'il est en droit de les lui retirer et que s'il est venu nu dans ce monde, il en ressortira semblable. Il reconnaît le droit de Dieu de le dépouiller. Et il ne prononça aucune parole inconvenante. Pensons à cela. Nous regimbons si facilement. Et nous sommes si prompts dans des paroles inconvenantes. Voilà un homme qui ne pèche pas de ses lèvres. Et nous savons bien ce que Jacques dit dans son épître. L'homme qui ne faillit pas en parole, c'est un homme. Et Job, pratiquement, était irrépréhensible. Quelle dignité, quelle soumission, quelle acceptation de la part de cet homme, Job, qui accepte et s'incline avec louange même, puisqu'il se prosterne devant le dépouillement duquel il est douloureusement l'objet. Lorsque nous sommes frappés par les circonstances difficiles, nous devons bien le reconnaître. Ce que nous recherchons, c'est le moyen d'y échapper. Et la parole est là pour nous le montrer. Tout au long des Écritures, nous avons des exemples très frappants à ce sujet. L'homme est frappé d'une circonstance difficile, on cherche à y échapper. Un Élimélec, il est dans un pays où il a famine, on va dans un autre. À la place de demander à l'Éternel, mais pourquoi donc est-ce qu'il y a la famine? Il y a une raison si nous ne sommes plus dans l'abondance. Si le ciel a retenu sa rosée et la terre a retenu son produit, comme nous le lisons dans le prophète Agé, il y a une raison. Élimélec n'a rien cherché. On est dans la famine, on part ailleurs. C'est ce que l'homme cherche toujours, c'est pallier aux conséquences d'une inconséquence, au lieu d'en rechercher les causes. Et même comme croyants, nous y sommes exposés. Ce n'est pas donc ce que Job a fait. Satan est défait. Il est complètement débouté. Puisqu'il avait dit à l'Éternel, tu verras s'il ne te maudit pas en face. Et Job bénit l'Éternel, se prosterne devant son Dieu, accepte les dépouillements et ne prononce aucune parole inconvenante. Satan donc doit s'en retourner confus. Et nous pourrions dire, pourquoi donc l'épreuve a-t-elle été plus loin? Job a démontré vraiment quel était son état spirituel et moral. Il en a donné l'épreuve. Mais si Job, si l'épreuve était restée là, si la mise à l'épreuve de Job avait pris fin à ce moment-là, on peut dire que Job en serait ressorti encore plus satisfait de lui-même. Elle n'aurait pas contribué à le dépouiller de lui-même. Mais il aurait remporté une victoire de laquelle il aurait pu se prévaloir. Quant à Satan, va-t-il renoncer? Jamais. Dans le livre de Sophonie, nous lisons que l'inique ne connaît pas la honte. Et c'est exactement ce que nous avons ici. Après cette défaite, Satan vient de nouveau. Nous retrouvons les mêmes paroles au début du chapitre 2 que celles que nous avons lues au chapitre 1er. Il vient se présenter parmi les fils de Dieu, devant l'Éternel, et l'Éternel de lui poser les mêmes questions, d'où viens-tu? Et Satan de répondre par les mêmes paroles, de courir ça et là sur la terre et de lui promener. Et l'Éternel de lui dire, as-tu vu mon serviteur Job? En dépit du fait que tu m'as incité à l'engloutir sans motif, il n'y avait pas de raison dans sa marche pour le frapper si douloureusement, si sévèrement. Tu m'as incité à le faire. En dépit de cela, il n'a prononcé aucune parole qui soit indigne. Mais Satan, comme nous le répétons, l'inique ne connaît pas la honte, il n'est pas confus devant Dieu et il répond en disant, peau pour peau, tout ce qu'un homme a, il le donnera pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, tu verras s'il ne te maudit pas en face. Et l'Éternel de lui dire, le voilà, il est entre tes mains, seulement, une deuxième fois Dieu lui prescrit ses limites, ne touche pas à sa vie. Épargne sa vie. Et alors nous voyons Satan sortir de la présence de l'Éternel sans tarder, et il va frapper Job de cet ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. C'est la deuxième étape, la deuxième atteinte de la part de Satan sous l'autorisation de Dieu lui-même. Job est touché dans son corps. Nous assistons maintenant à la sixième épreuve. La cinquième, c'était les quatre premières, nous les avons vues dans le premier chapitre. Quatre épreuves successives. La cinquième, c'est l'ulcère dont il est frappé sur son corps tout entier. Et nous arrivons à la sixième mise à l'épreuve, sa femme. Elle n'a pas été l'aide qui correspond. Et sa femme lui dit, « Restes-tu encore ferme dans ta perfection ?» Maudit Dieu et meurt. Il est frappant de voir que l'ennemi a placé dans le cœur de cette femme ce qu'il voulait, le but qu'il voulait atteindre. Tu verras s'il ne te maudit pas en face, avait dit Satan. Et il cherche à se servir de sa femme, qui est l'élément certainement le plus influent sur un homme, sa femme, pour l'inciter à maudire Dieu. Quelle parole! Mais l'Éternel, Job de lui dire, tu parles comme parlerait l'une des insensées. Il ne lui dit pas, tu parles comme une insensée. Il ne s'autorise pas à dire cela de sa femme. Mais tu parles comme parlerait l'une des insensées. Tu t'assimiles au langage de la folie de l'homme insensé qui dit, il n'y a pas de Dieu. Quelle sagesse dans ces paroles de Job, dans sa souffrance, après le dépouillement, la souffrance dans son corps, qui peut parler de la sorte avec respect, mais avec sévérité à sa femme. On pourrait s'attendre à ce que l'Éternel intervienne dans un gouvernement immédiat et combien sévère à l'égard de cette femme, qui incite son mari à maudire Dieu. Il est de toute beauté de constater qu'elle n'est l'objet d'aucune intervention divine. Ne pouvons-nous pas penser que dans sa grâce, Dieu tient compte des circonstances qui abattent une créature à un tel point et usent d'une grâce particulière. Parce qu'en dehors de l'ulcère malin, qui n'était pas peu de choses, mais en dehors de cela, la femme de Job a subi les mêmes dépouillements. Cette mère a perdu tragiquement 10 enfants. Elle est à bout. elle ne se contrôle plus lorsqu'elle dit de telles paroles. Et en quelque sorte, la grâce de Dieu n'y donne pas suite. En tout cela, nous est-il dit, Job ne pécha point de ses lèvres. Deuxième mise à l'épreuve, deuxième victoire remportée par la perfection pratique et par la sagesse et par la crainte de Dieu et par la soumission et l'acceptation de Job. Deuxième fois, Satan est défait. Après cela, Job va maudire son jour. Il ne maudit pas Dieu, il va maudire son jour, souhaitant ne pas être né. Souhaitant étant né, souhaitant mourir. Lorsque l'accablement arrive à un tel point, c'est un désir que nous pouvons saisir. Élie a demandé la mort. Lorsqu'il s'est enfui sous les menaces de Jézabel, lui qui avait résisté devant 850 faux prophètes et sacrificateurs des Achères au Carmel, il fuit et demande la mort sous les menaces d'une femme. Il était sorti de la communion. Mais est-ce que l'Éternel va donner suite au souhait d'Élie et le recueillir? Pas du tout. Il n'aurait pas appris la leçon la plus bénie qu'il devait recueillir. Il fallait qu'il connaisse cette scène d'Horeb pour recueillir une bénédiction plus grande encore. Et nous voyons dans ce cas d'Élie, sans y entrer, que les leçons les plus dures sont à la fin de la vie, à la fin d'un ministère. Il fallait que Élie apprenne qu'il n'était pas meilleur que les autres lorsqu'il disait « Je suis resté moi seul ». Tous t'ont abandonné, ils ont tué tes prophètes, je suis resté moi seul. Il ne le dit pas qu'une fois. Et Dieu de répondre par son intervention, un homme qui pense être seul fidèle, je n'ai plus besoin de lui. Descends et oins ton successeur. Il fallait que... Il n'est pas arrivé à ses fins, Job n'a pas maudit Dieu. Et même il a repris sévèrement, Satan l'a a pu le noter, il a repris sévèrement sa femme qui l'incitait à le faire. Et encore une fois, dans de telles circonstances, il ne pêche pas de ses lèvres. Quelle chose extraordinaire! Un homme qui n'a pas son pareil sur la terre. On comprend que Dieu puisse dire, as-tu vu mon serviteur Job? Mais le but de Dieu est-il atteint? Pas du tout. Et une fois encore, et plus encore à la fin de cette deuxième épreuve, si elle avait pris fin et que Job soit rétabli dans sa santé et recouvré ses biens, il aurait pu se glorifier de sa fidélité et se glorifier d'avoir honoré Dieu dans l'épreuve. Il n'aurait pas été dépouillé de lui-même, au contraire, sa chair aurait été fortifiée. Nous devons mettre un terme, si le Seigneur nous l'accorde, nous pourrons peut-être poursuivre demain soir, Dieu voulant. Mais nous disons deux mots des amis, pour terminer, des amis qui viennent le voir. Nous reviendrons sur ce point. C'est la septième épreuve. Quatre dans le premier chapitre, la cinquième dans l'ulcère, la sixième par l'incitation de sa femme, et la septième, ce sont ses amis qui viennent, qui, tout en étant favorablement est bien disposé pour le consoler, n'ont pas compris le but de Dieu et ne sont pas entrés dans la souffrance de Job. Et n'ont pas compris l'état du cœur de Job et ce dont il devait être libéré. Ce qui est très frappant, c'est que dans la deuxième phase de cette école, Satan n'apparaîtra plus. Il est là, venu deux fois dans le chapitre premier, dans le chapitre second, deux fois pour intervenir et demander en quelque sorte de pouvoir porter atteinte à cette fidélité de Job. L'Éternel lui accorde, met Job entre ses mains et Satan est défait. Mais dans l'école suivante, à partir du troisième chapitre et jusqu'à la fin, Satan n'est plus actif. Nous ne le voyons plus. Pourquoi cela? Parce que maintenant l'Éternel va véritablement œuvrer. Dieu va œuvrer dans la conscience et dans le cœur de Job pour le libérer de lui-même, c'est-à-dire de la chair. Et il est impossible à Satan d'intervenir pour qu'un homme soit libéré de la chair. Parce que la chair, c'est l'élément qui le sert. C'est l'élément de l'être humain qui est au service de l'ennemi. Comment Satan interviendrait-il pour libérer un homme de la chair? Impossible. Il irait contre son but. Et par la suite, nous verrons que Satan n'intervient plus. Job va connaître une épreuve douloureuse par les propos de ses amis, qui pourtant étaient fort bien disposés. Ce sont des consolateurs, mais ils se sont démontrés des consolateurs fâcheux parce qu'ils ne sont pas entrés dans la pensée de Dieu et ils n'ont pas saisi le but de Dieu et ils n'ont pas aidé Job à être libéré de la propre justice. Ils ont eu un raisonnement, les uns et les autres, et Job lui-même, où il y a beaucoup de choses justes, mais ils sont à côté du sujet. D'où l'aboutissement sans résultat de ces longs discours. Les uns et les autres doivent se taire de chaque côté du fossé qui les sépare. Nous reprendrons, Dieu voulant, à partir de ce verset 11, mais ce qui est de nature à nous encourager, c'est que lorsque la grâce du Seigneur commence une œuvre dans un cœur, par le chemin de la conscience, son but est de l'achever. Le chemin peut être dur, il peut être long, mais la grâce est persévérante. Et face à l'épreuve, nous connaissons bien ce que l'Écriture nous dit dans le 12e chapitre de l'Épître aux Hébreux. Il y a trois dispositions face à la discipline. Nous sommes tous sous la discipline, comme fils. Le Seigneur discipline ceux qui lui appartiennent, ce sont des fils. Des parents n'élèvent pas les enfants d'autrui, ils élèvent leurs enfants. Le Seigneur élève et éduque, forme, disciple s'est formé pour être des disciples. Et il les soumet à ses voies éducatives pour nous dépouiller de tout ce qui nous entrave à vivre de Christ et vivre pour Christ. Et ce qui nous entrave, c'est la chair. Nous le réalisons bien, c'est la chair. Et face à ces voies formatives, il y a trois attitudes, nous dit ce chapitre 12, l'Épître aux Corinthiens. On peut mépriser la discipline, la tenir pour rien. Donc on en perd tout le profit, tout en accroissant sa responsabilité, parce qu'on a été averti par ces voies disciplinaires. On peut mépriser la discipline. La deuxième, qui est négative aussi, c'est perdre courage, être découragé. Ces choses m'arrivent, d'où les pourquoi que posera Job dans le chapitre suivant. Et on perd courage, et on laisse aller. Il n'y a pas de profit. Et la troisième disposition, c'est celle dont nous parle l'écrivain de cette épître, c'est être exercé par elle. Rechercher dans la dépendance du Seigneur, dans la communion avec lui et dans la confiance qu'il honore, ce qu'il veut enseigner. Enseigne-moi. Alors, pour celui qui est exercé par elle, le résultat béni sera de goûter le fruit paisible de la justice. Le fruit sera produit dans la maturité que produira les rayons du soleil de la grâce. Job les recueillera. Il recueillera cette bénédiction. Mais le chemin a été caillouteux. Le chemin a été long. Il a été douloureux. Mais la grâce de Dieu, dans la persévérance de l'amour, produira ce qu'il s'est proposé.
Thank you.
Nous désirons poursuivre avec le secours du Seigneur la considération de ce livre de Job que nous avons ouvert hier soir et reprenons la lecture à la fin du second chapitre. À partir du 11e verset. Et trois amis de Job apprirent tout ce mal qui lui était arrivé et vinrent chacun de son lieu, Eliphaz le Thémanite, et Bildad le Sukkite, et Tsophar le Naamathite, et ils s'entendirent ensemble pour venir le plaindre et le consoler. Et ils levèrent les yeux de loin, et ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent leurs voix et pleurèrent. Et ils déchirèrent chacun sa robe et répandirent de la poussière sur leur tête en la jetant vers les cieux. Et ils s'assirent avec lui à terre 7 jours et 7 nuits, et nul ne lui dit une parole, car il voyait que sa douleur était très grande. Nous avons considéré hier soir brièvement les deux premiers chapitres de ce livre qui revêt un caractère particulier vu qu'il nous entretient des voix de Dieu tout au long de ces 42 chapitres à l'égard d'un seul homme, Job, qui a vécu dans des temps très reculés, on pense au temps des patriarches, un homme remarquable en raison de sa crainte de Dieu, sa droiture, sa perfection pratique, à tel point qu'il faisait l'admiration du ciel, de sorte que l'Éternel lui-même, lorsque Satan se présente devant lui, s'introduisant au milieu des fils de Dieu, des anges probablement, peut entendre cette déclaration de la part de Dieu, « As-tu vu mon serviteur Job ?» qu'il n'a pas son semblable sur la terre. Nous avons vu que Dieu autorise Job, autorise Satan, pardon, à porter la main sur les biens de Job, puis sur lui-même, Satan cherchant à conduire Job à chuter jusqu'au point de maudire Dieu. « Tu verras, dit-il, si, lui retirant les bénédictions dont tu l'as comblé, il ne te maudit pas en face. » Et nous avons pu constater que, au cours de ces diverses épreuves successives et combien tragiques, par deux fois, il nous est dit que Job n'a pas péché de ses lèvres, qu'il n'a prononcé aucune parole inconvenante à l'égard de Dieu, de telle manière que l'ennemi est défait. Après avoir subi successivement de nombreuses épreuves, dont quatre sont mentionnées dans le chapitre premier et les trois suivantes dans le deuxième chapitre, soit une plénitude d'épreuves, après avoir été dépouillé de tous ses biens, après avoir perdu tous ses enfants, ses 10 enfants, après avoir été touché dans son corps par un ulcère malin de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, Job demeure ferme dans sa perfection pratique, ce que lui reproche même sa femme, qui l'incite à maudire Dieu avant de mourir. Nous en sommes restés là et avons pu constater que l'ennemi est donc totalement défait. Mais l'inique ne connaît pas la honte, raison pour laquelle, après sa première défaite à la fin du chapitre premier, il n'a pas craint de se présenter une seconde fois, cherchant à nouveau à faire chuter Job. Nous sommes parvenus au dernier paragraphe de ce premier chapitre, qui place devant nous l'arrivée des amis de Job, ses 3 amis qui viennent pour le consoler. Nous aimerions encore souligner un fait important, qui peut-être a été omis hier soir, à savoir que Job ignorait l'entretien duquel il était l'objet dans une scène céleste entre l'Éternel d'une part et Satan d'autre part. Job ne le savait pas. Ce n'est du reste pas un cas unique. Nous avons quelque chose de semblable dans une scène qui a été évoquée hier, à savoir dans le livre des Nombres, lorsque Balak et Balaam sont sur la montagne pour implorer la malédiction de Dieu sur le peuple d'Israël dans le camp, dans le désert, alors que Dieu se plaît à le bénir. Israël ne le savait pas. Dans une scène combien différente en bénédiction alors, les disciples ne savaient pas la nature de la prière du Seigneur en Jean 17, cet entretien entre le Seigneur et son Père, prière, entretien duquel les disciples n'ont pas connaissance. Dans ces derniers versets, la fin de ce chapitre second, arrivent donc 3 amis. Et nous pouvons penser qu'un certain temps s'est écoulé entre ce dont a été frappé Job dans ses épreuves et la venue de ses amis, en raison de la distance d'une part et des moyens de communication d'alors, mais ces trois hommes viennent pour le plaindre et pour le consoler. À la lecture des paroles que ces hommes vont prononcer à l'égard de Job, nous pourrions avoir un jugement sévère à l'égard de ces prétendus consolateurs. Mais nous devons néanmoins noter les dispositions, les intentions combien heureuses qui animaient ces trois hommes qui accomplissent ce long voyage pour venir se trouver là aux côtés d'un ami souffrant. Être près de ceux qui souffrent, c'est déjà quelque chose. Ils sont venus là et lorsqu'ils s'approchent et le voient, ils ne le reconnaissent pas, tant il était marqué par la souffrance, tant son visage était d'effet changé. Ils ne le reconnaissent pas, à tel point que saisis dans leurs affections pour Job, ils élèvent la voix et pleurent, répandant de la poussière sur leur tête et la jetant vers les cieux, prenant place à côté de lui en déchirant leur robe. Qui pourrait parler d'insensibilité dans le cœur de ces trois hommes? En avons-nous dans une telle mesure à l'égard de ceux qui sont dans la souffrance? Accomplir un long chemin, être saisi dans ses affections, témoigner la souffrance en morale, de cœur, en constatant l'intensité de la souffrance qui laisse même muet. Ces hommes sont restés là, tous trois, 7 jours et 7 nuits, sans prononcer une parole. Nous sommes parfois exposés à spontanément prononcer des appréciations, voire des jugements sévères à l'égard d'autrui. Mais si l'on considère d'un peu plus près les conditions, qu'il s'agisse de Job lui-même, la nature, la mesure des révélations qui lui étaient faites et l'extraordinaire compréhension qu'il avait néanmoins de beaucoup de choses, il n'avait ni la parole, ni la loi, ni les prophètes. Si l'on pense à sa femme sur laquelle nous sommes exposés à prononcer un jugement très sévère, ce que Dieu n'a pas fait, tenant compte de la souffrance dans laquelle elle se trouvait, ayant elle aussi perdu 10 enfants tragiquement, si l'on pense à ces trois hommes qui gardent le silence tant ils étaient émus en voyant la souffrance de Job. Il reste là comme l'avait fait Ézéchiel dans le premier chapitre de son livre, il reste là muet et tombe sur leur face. Après 7 jours de silence, c'est Job qui rompt le silence, qui parle le premier. Après cela, Job, nous est-il dit, ouvrit sa bouche et maudit 100 jours. Réaction humaine. Réaction combien compréhensible. Si nous lisons un peu plus loin au chapitre 4, au chapitre 3 déjà, nous entendons ce qui monte si souvent dans nos cœurs, dans l'épreuve, les pourquoi. Pourquoi? 4 pourquoi jalonne ce 3e chapitre, au verset 11. Pourquoi ne suis-je pas mort? Dès la matrice, n'ai-je pas expiré quand je sortis du ventre? Pourquoi les genoux m'ont-ils rencontré? Pourquoi les mamelles pour les têter? Verset 20. Pourquoi la lumière est-elle donnée aux misérables et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? À ceux qui attendent la mort, elle n'est pas là, qui la cherchent plus que des trésors cachés, qui se réjouissent jusqu'au transport et sont dans l'allégresse parce qu'ils ont trouvé le sépulcre. La souffrance peut conduire, d'une part, à ces pourquoi. Et comme quelqu'un l'a dit, sur la terre, nous sommes dans la terre des pourquoi, dans l'attente d'être dans le ciel des parce que. Pourquoi, pourquoi, pourquoi Pourquoi encore? Que de pourquoi? Ces interrogations, cette perplexité dans la souffrance qui fait ardemment souhaiter n'être pas né et souhaiter entrer dans le sépulcre. Les trois amis sont là. Auditeurs de ces premières paroles de Job, de ces quatre pourquoi, tour à tour, ils vont s'exprimer. Et leurs discours seront entrecoupés par les réponses de Job. Nous n'entrerons pas dans ces différents passages qui occupent de nombreux chapitres. Nous soulignerons simplement qu'Eliphaz, qui peut-être était l'aîné, puisqu'il parle le premier, parle sous le caractère de l'expérience. C'est lui qui pourra dire plus d'une fois « j'ai vu ». Il évoque l'expérience pour, en quelque sorte, moraliser Job. Bildad, qui parlera le second, il parle chacun plus d'une fois, parle selon la tradition. Et, en quelque sorte, il rejette Job sur lui-même, mais n'ouvre aucune porte d'espérance. Alors que le troisième, Tsophar, parle sous le caractère du légalisme. Et c'est lui qui est le plus dur. Le légalisme est très dur. Il est sans pitié, il condamne. Mais sous des formes différentes, on peut dire que ces trois hommes excitent Job au lieu de l'apaiser. Ces trois hommes le condamnent au lieu de lui parler de grâce. Ces trois hommes l'accablent au lieu de l'encourager. Et ces trois hommes le provoquent à la place de le réduire à la paix du silence. Et nous assistons pendant les chapitres où Job parle, or il parle environ 20 chapitres, 20 chapitres des 42 chapitres de ce livre, nous traduisent ou nous transcrivent les paroles de Job. Mais on voit au fur et à mesure de ces entretiens, de ces propos réciproques, lorsque les amis lui parlent, le condamnant et lui faisant comprendre, cherchant à lui faire comprendre, si Dieu te frappe, c'est que tu as commis des péchés, c'est qu'il a des raisons de le faire. Alors que Job, qui est déjà animé de propre justice, rétorque en disant, Dieu me frappe à tort et je sortirai vainqueur. Je vais démontrer et prouver ma propre justice devant Dieu. Ils sont dans des dispositions, des appréciations qui s'opposent à la place de se rencontrer. Nous devons nous tous retirer de ces entretiens des enseignements très utiles dans le domaine pastoral. Par exemple, pour les visites. Combien nous avons besoin en portant nos pas vers les affligés, la souffrance, de demander au Seigneur qu'il donne la parole à propos, ce qui est de nature à répondre aux besoins, à l'état des cœurs. Et les propos de ces trois hommes qui parlent à Job sont souvent intelligents, ils ont une certaine logique, certaines raisons, ils ne sont pas nécessairement erronés, mais ils ne répondent absolument pas à l'état du cœur, à l'état spirituel et moral de Job. De telle manière qu'au lieu qu'ils se rencontrent, ils s'écartent toujours plus. Et plus les uns l'accablent, plus Job se justifie. Il lui parle sévèrement, mais ils sont à côté, totalement à côté. Et au lieu de faire du bien, le résultat, nous le verrons, nous le savons déjà, c'est une faillite. Dans le chapitre 19, nous avons des propos, nous ne lirons que quelques passages sans nous y arrêter, mais quelques propos de Job qui traduisent ce dont il a été privé d'affection, de compréhension, est la mesure dans laquelle il est isolé. Au chapitre 19, nous lisons quelques versets. Au verset 6, il dit déjà « Sachez donc que c'est Dieu qui me renverse et qui m'entoure de son filet. » Verset 8, « Il a fermé mon chemin et je ne puis passer. Il a mis des ténèbres sur mes sentiers. » Au verset 13, « Il a éloigné de moi mes frères et ceux de ma connaissance me sont devenus entièrement étrangers. Mes proches m'ont délaissé et ceux que je connaissais m'ont oublié. Ceux qui séjournent dans ma maison et mes servantes me tiennent pour un étranger. Je suis à leurs yeux comme un homme du dehors. J'ai appelé mon serviteur et il ne m'a pas répondu. Et ma bouche, je l'ai supplié. Mon haleine est étrangère à ma femme et ma supplication au fils du sein de ma mère. Même les petits-enfants me méprisent. Je me lève. Il parle contre moi. » Notons qu'il ne parle pas de ses enfants, ils sont tous morts. Verset 19, « Tous les hommes de mon inimitié, de mon intimité, m'ont en horreur, et ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. »